Bonjour et bienvenue sur Radio RD Dauphiné. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la liberté. Pour cela, nous accueillerons les élèves de seconde 7. Pour vous faire réfléchir sur votre relation aux écrans, je vais donner la parole à Edem et Ahmed qui vont nous parler de l'addiction aux écrans.
Ma liberté et mon cerveau, une relation pas si simple. C'est pas moi, c'est mon cerveau. Un petit manuel fort instructif publié chez Nathan. Un petit bouquin de 100 pages à mettre entre les mains des petits et des grands, et même de ceux qui n'aiment pas lire. Pourquoi ? Ces deux auteurs, Grégoire Bost et Mathieu Cassotti, nous expliquent ce qui se passe dans notre tête d'adolescent. Ils nous aident à comprendre le fonctionnement de notre cerveau.
Quoi ?
Oui, ils nous aident à mieux comprendre nos émotions, nos réactions, nos relations. Plein de trucs pour mieux gérer et rester libre. Enfin, le plus possible par rapport au réseau et internet, les fake news, le cannabis, l'alcool et tout ça. Un super guide illustré et positif pour prendre notre vie en main. Avec des tests, des expériences, des explications, des dessins super clairs. Qu'on peut même comprendre à partir de 10 ans. Bah ouais, on n'est pas juste des hormones en ébullition, on a aussi un cerveau en évolution. Allez, soyez fous et libres, un livre qui s'emprunte au CDI, c'est pas moi, c'est mon cerveau.
Ok, mais pour celles et ceux qui n'arrivent vraiment pas à décrocher des écrans, on a aussi un truc à vous proposer. Ouais, là je vois, j'ai de nouveau toute votre attention. Donc je disais, pour les accros aux petits et aux grands écrans, une petite série d'Arte. Ah non, quelle horreur, me diriez-vous. La chaîne des vieux et des profs, ou des vieux profs, ou les trois à la fois. Ouais, à première vue, ça fait pas envie. Pourtant, la série Dopamine, c'est de la balle. Si t'es accro aux applis, si tous les matins la première chose que tu fais, c'est caresser l'écran de ton tel et que tu ne comptes plus tes heures sur Snap, YouTube, Insta ou Netflix, si tes parents sont eux aussi accros à Twitter, Uber, Facebook ou Tinder, bah organisez-vous une séance groupée de visionnage des 9 vidéos de 6 à 10 minutes. Et là, vous allez comprendre comment leurs concepteurs, à l'aide des imperfections de notre cerveau et de nos besoins fondamentaux d'homo sapiens sapiens, nous manipulent. Quoi ? Moi, manipuler ? Jamais. Ben si, bro. Pour une petite dose de dopamine, tu y restes, tu y reviens, tant t'en as besoin. Cette toute petite molécule est responsable de ta motivation, ton plaisir et de l'addiction. Alors juste un conseil, Dopamine, la série d'Arte. À partager. Indispensable pour comprendre et continuer à prendre du plaisir sur les applis sans en devenir addict. Parce que si c'est gratuit, c'est toi le produit.
Merci pour ces conseils. Maintenant, je vais laisser la place à Coraline, la journaliste, qui animera le débat sur le droit de l'avortement. Les deux intervenantes sont Madame Paya et Madame Lamé.
Merci Lilou et bonjour à tous. Nous allons premièrement définir l'avortement, appelé aussi IVG, qui est un acte médical qui consiste à mettre fin à une grossesse. C'est un soin primaire pour des millions de femmes, mais dont l'accès est inégal dans le monde. Aujourd'hui, la situation est préoccupante. La montée d'anti-IVG se fait fréquente dans de nombreux pays, comme l'Italie, le Portugal et aussi les États-Unis. Nous débattrons sur ce sujet avec mes deux invités. Pour commencer, définirez-vous l'acte d'avorter de crime ?
Alors non, avorter c'est penser au bien de soi ainsi que du bébé. Donc si une femme, elle se sent pas prête à succomber à une grossesse et de devenir mère, que ce soit suite à un viol ou à un autre, elle ne pourra pas élever son enfant dans des conditions propices à son bon développement. Donc n'oublions pas que le bébé, durant l'avortement, qui doit être pratiqué avant 13 semaines de grossesse, n'est pas conscient. Il est certes vivant, mais on ne peut pas considérer l'acte d'avorter tel un crime, car le bébé ne ressent pas encore d'émotion. Cela serait plutôt criminel de forcer une femme à parvenir à une grossesse sans son consentement que de lui laisser le libre choix d'avorter ou non.
Je ne suis pas d'accord, c'est un crime. On a pu vérifier que la vie humaine commence dès la fécondation, donc quand le bébé est une cellule œuf. À partir de ce moment, le bébé est bien un être humain. Le droit à la vie est le plus important. Tout être humain a le droit de décider de son corps, mais pas celui d'un autre. Cet humain, à ce moment dans la cavité utérine de sa mère, est déjà un être à part entière. Il peut commencer à ressentir les émotions de sa mère, à sentir le monde bouger autour de lui. Avorter, c'est tuer un innocent qui ne demanderait que de vivre.
Et vous pensez qu'un lien existe entre la fréquence de l'abandon et l'IVG ?
Alors oui, des études ont prouvé que dans les États ou dans les pays où l'avortement est illégal, le nombre d'abandons par année est plus élevé que dans d'autres. Je reviens sur les événements actuels qui se déroulent dans certains États aux États-Unis. Le fait que certains d'entre eux et fermer les centres de pratique de l'IVG et condamner cette dernière n'a pas empêché aux femmes d'avorter dans de terribles conditions sanitaires avec de anciennes méthodes barbares telles celles du cintre. Ou même, si dans le cas contraire, elles n'ont pas pu avorter, abandonner leur bébé à leur naissance. Donc il faut renforcer les plannings familiaux, l'atteinte à la contraception, la prévention des rapports sexuels, l'éducation sexuelle et ne pas punir une femme du droit de disposer de son corps. Notre corps, notre choix. Ne soyez pas égoïste.
Vous nous dites égoïste, mais vous ne pensez pas que c'est plutôt vous les égoïstes ? À penser qu'à vos sentiments. Si des femmes ne sont pas prêtes à élever un enfant, à en assumer les responsabilités, alors qu'elles ne prennent pas le risque de tomber enceinte, si elles savent qu'elles les abandonneraient. C'est logique, ces femmes sont immatures et inconscientes.
Mais comment vous pouvez sortir un discours pareil ? Elles sont quoi ? Immatures et inconscientes ? Mais pardon, la plupart de ces femmes ont dans le pire des cas été victimes de violences sexuelles ou de désinformation, ou alors encore un simple accident.
Et si nous passons à la question suivante, je vous prie, qui est encore plus complexe, lorsque les conditions médicales le permettent, doit-on favoriser la vie de la mère ou de celle de l'enfant ?
Le bébé, bien sûr, c'est évident. Il est jeune alors que la mère a au moins 15 ans de plus que lui. Il mérite la vie, on ne peut pas le nier.
Alors non, ça ne l'est pas, car le bébé vivra sans sa mère, du moins sans celle qui le lie de son sang. Donc comment voulez-vous qu'il soit entièrement heureux sans ? Une mère ne devrait pas mourir pour sa fille et son fils. Bien qu'il soit l'union d'elle et du géniteur du bébé, il n'a encore rien vécu. La vie devrait être privilégiée dans ce cas-là, pour la maman, après pour le bébé.
Merci d'avoir répondu à mes questions, c'est ainsi que le débat se clôt. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'au bout, en espérant que ces différentes réponses à ces trois questions vous feront bien méditer. Ce que l'on en retient, c'est que le sujet de l'avortement fait débat un peu partout dans le monde. De nombreuses polémiques sont exprimées à ce sujet, d'où l'importance de débattre sur l'avortement, partager différents points de vue et permettre de rétablir quelques vérités.
Merci pour cette interview. Nous accueillons maintenant au micro Perle et Elina qui vont nous parler de la dépendance à l'alcool.
Bonjour, nous allons définir ce qu'est la dépendance. C'est donc le fait d'avoir un besoin irrépressible de quelque chose. En l'occurrence, ici l'alcool. Mais c'est-à-dire, Perle ?
Cette dépendance est de plus en plus fréquente chez les jeunes. Une étude faite par Santé Pratique nous démontre que 85,7% des ados âgés de 16 à 17 ans ont déjà consommé de l'alcool, ce qui est quand même énorme.
C'est vrai, la consommation régulière d'alcool, qui concerne 8,4% des jeunes, devient habituelle voire quotidienne. En France, un adolescent sur 10 ingère au minimum 10 fois dans le même mois un alcool plus ou moins fort. T'imagines ?
La tête du foie ! Cette consommation qui débute très jeune peut engendrer une dépendance, qui risque de se transformer en addiction et donc en maladie.
Et oui, cette dépendance à l'alcool se traduit donc par un manque, un choc psychologique ou une simple habitude. Elle s'installe de manière insidieuse. Elle peut prendre des années avant que la personne concernée ou une personne de son entourage se rende compte de son existence. À plus ou moins long terme, l'alcool prend le dessus. Cette personne va développer une tolérance et deviendra dépendante. Pas facile quand même.
Oui, ça c'est clair. Cette dépendance agit sur la santé mentale ainsi que physique. La vie professionnelle et les relations avec les proches sont perturbées. L'alcoolodépendance est particulièrement toxique pour le système nerveux et provoque de nombreux troubles et cancers. On peut citer les cancers de la bouche, du foie ou encore de l'œsophage. Ça commence à faire.
C'est pour ça qu'afin d'éviter cette dépendance, des sites comme Santé publique France conseillent un nombre maximal de 2 verres par jour. Ils font aussi des campagnes de publicité visant les jeunes afin de les sensibiliser.
Et si c'était trop tard ? Pour en sortir, le corps doit se déshabituer à l'alcool. Selon le cas, le sevrage peut se réaliser par des suivis médicaux et psychologiques avec des médicaments. Le traitement durera sur une plus ou moins longue durée. C'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer.
Merci pour tout.
Et pour finir sur cette thématique, la parole à Bassam.
Bonjour, je vous présente Abdellah et Yacine qui vont débattre de notre sujet du jour, le port du voile, un sujet très polémique ces dernières années. Abdel, je vous laisse commencer. Vous avez l'air d'avoir des idées.
Je veux bien. Alors, d'un point de vue religieux, si une femme qui porte le hijab est épanouie, c'est avant tout parce qu'elle essaie de plaire à son créateur, Allah. Elle ne cherche pas du tout à plaire aux gens, ni à provoquer qui que ce soit.
Ah, je vois qu'Yacine souhaite intervenir.
Le voile gêne, car il provoque plusieurs regards sur la personne avec le contexte politique actuel, où il est l'objet de nombreuses tensions.
D'accord, je vois que nous avons deux avis opposés. Yacine, vous avez parlé de contexte politique. Êtes-vous d'accord avec la loi du Rassemblement National qui est d'interdire le port du voile dans les facs et universités ?
Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord, car les élèves sont majeurs et responsables de leurs actes.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette loi. Et vous, Abdellah, je suppose que vous n'êtes pas d'accord non plus.
Je suis d'accord que le voile soit interdit dans les primaires, collèges, lycées, car les élèves sont mineurs et ils écoutent l'avis des gens et non le leur. Mais à l'université, je pense que les étudiants sont matures, ils sont grands, ils ont 18 ans voire plus. La personne est donc responsable de sa décision.
D'accord, je vois que vous êtes du même avis. Ensuite, pour vous, quand les femmes portent le voile, sont-elles soumises à leur homme ?
Dans l'islam, la femme n'est pas soumise à l'homme, mais à Dieu. Mais certains hommes obligent des femmes musulmanes à porter le voile. On peut parler des femmes qui ne vont pas à l'école, par exemple en Iran, où les femmes sont interdites d'aller à l'école à cause des hommes de leur famille. Mais dans l'islam, il est dit d'aller chercher la connaissance. Le savoir n'est pas limité pour les hommes et les femmes. Nous sommes tous censés aller chercher le savoir.
Yacine, qu'avez-vous à répondre à ça ?
Je suis tout à fait d'accord avec lui.
J'ai encore une question pour vous. Est-ce que le voile est une mode ? Et est-il devenu économique ?
Pour certaines, c'est une mode. Économiquement, pour certaines enseignes comme Adidas, Amazon, Under Armour, Shein et d'autres font de l'argent et proposent différents types de voiles.
Abdel, et vous ? Quel est votre argument sur la mode ?
Nous pouvons parler du burkini. C'est un maillot de bain couvrant intégralement le corps. Ce vêtement de sport, acheté aujourd'hui par des femmes musulmanes, n'existait pas il y a quelques années. C'est un nouveau marché de la mode pour les marques, surtout que l'islam prend de plus en plus d'ampleur depuis des années. Il y a donc de plus en plus d'acheteurs potentiels.
Donc Yacine, vous n'êtes pas totalement contre le port du voile ?
Oui, tout à fait. Je ne suis pas réellement contre, mais je suis pour l'égalité et la liberté des femmes. Et pour ça, il faut certaines interdictions.
Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir partagé vos avis.
Pour finir, nous vous rappelons que la liberté n'est pas toujours facile à obtenir et que l'esclavage moderne n'est jamais très loin. L'idée de liberté touche tous les éléments de notre vie quotidienne et les problèmes du choix restent centrales. En plus, il y a de nombreuses maladies mentales qui empêchent les personnes touchées de faire ce qu'elles veulent, de faire leur propre choix, parler en public, prendre les transports en commun ou simplement sortir de chez soi. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations, n'hésitez pas à en parler à un professionnel. Merci à vous de nous avoir écoutés, bonne journée et à bientôt sur RD Radio Dauphiné.